Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on est content de vous retrouver en cette rentrée, après un été un peu d'absence. Pas vraiment d'absence puisqu'on vous a diffusé l'émission spéciale qui était en fait une retransmission d'une partie des conférences qu'on avait faites à Marignac. Voilà, on espère que vous avez apprécié. Et là, on va repartir un peu sur quelque chose de neuf. Donc c'est l'épisode 51. Ce soir dans le studio, nous sommes trois. Axel, Pierrick et Fred qui vous parlent.
Salut.
Salut.
Un petit bonjour à Rémi qui n'a pas pu être là avec nous. Alors on est dans le studio de Luc d'ailleurs aujourd'hui, ça fait plaisir aussi d'enregistrer dans ce studio là. On vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de RDIWA, rdwa.fr, émission thématique l'étoile polaire. Là vous trouverez les photos aussi qui illustrent ces podcasts et qui sont prises par Rémi et Axel principalement. Voilà, alors vous pouvez aussi nous contacter par le mail astro-rdwa@protonmail.com. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a aussi envie, pour cette nouvelle saison-là, de vous inviter à participer à l'émission. Oui. Donc à venir nous rejoindre si vous avez envie de soit nous poser des questions, mais aussi surtout de nous parler de votre rapport au ciel. Ça peut être très très vaste, hein. Ça peut aller de...
Ah oui, il n'y a pas besoin de s'y connaître.
Voilà, non, ça peut être uniquement des questionnements, une curiosité ou juste...
Envie de partager un moment avec nous, parler des étoiles et du ciel et
voilà.
Ce qu'on ressent.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse que je viens de donner et puis voilà, on vous répondra. Alors,
sommaire de cette émission,
on va commencer par quelques petits points d'actualité. Ensuite, on présentera le ciel ce soir, comme d'habitude. Ensuite, ce sera la chronique spatiale de Pierrick. Cette fois, tu vas nous parler de SpaceX.
Ouais, faire un petit topo dessus, voir un peu, dégrossir un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette compagnie et dégrossir un peu tout ça.
Mmh. Ensuite, après la pause musicale, ce sera Axel, tu vas nous parler un peu de linguistique.
Ouais, le lien entre linguistique et astro qui saute pas aux yeux, là, vous allez me dire, mais on va voir ça.
Très bien. Et on terminera avec un petit point d'astro, je vous parlerai de matière noire. Voilà, alors c'est parti pour les actus. Alors on va commencer un peu par parler des atterrisseurs lunaires qui arrivent en cascade un peu en ce moment. Là, cette semaine, enfin, donc au début du mois de septembre, a été lancé un atterrisseur japonais. Donc l'agence spatiale japonaise s'appelle la JAXA, juste je mentionne, parce que ouais. C'est un nom qui va sûrement... revenir de plus en plus. Donc là, cette mission, ils ont lancé en fait il y a d'abord un télescope en fait qui a été un télescope spatial qui va imager en rayon X qui s'appelle X-RISM. Donc lui, il a déjà été placé en orbite et ensuite la sonde, elle continue son chemin et elle a choisi un chemin très long en fait. Elle ne va à l'unir que dans 4 mois. Alors bon, faut savoir que normalement le voyage le plus direct pour aller vers la Lune, c'est de l'ordre de 2 jours. Enfin bon, c'est quelques jours ouais. Pour aller sur la Lune. Là, ça va être 4 mois.
C'est peut-être dû parce que si je comprends bien, c'est une double mission du coup.
Ouais.
On lâche un satellite, un télescope spatial.
C'est ça.
Et on va atterrir. Alors, c'est peut-être dû à ça le délai, l'endroit où il a dû mettre en orbite ce télescope.
J'avoue que j'ai pas les détails. La raison principale annoncée, c'est d'économiser du carburant. Donc, qui dit économiser du carburant, dit économiser de la masse. Donc voilà, c'est. Je sais pas. En tout cas, ils ont fait ce choix-là. Dans 4 mois, la sonde arrivera et va lâcher sur la Lune donc un atterrisseur qui contiendra aussi deux petits robots, deux petits robots explorateurs.
Des rovers qui roulent
Ouais, mais c'est des petits. Oui, des rovers. Et il y en a un d'ailleurs qui est une toute petite boule qui fait à peine 10 cm qui se baladera sur la Lune. Voilà, donc les Japonais, ils en sont
les
là.
Les rois de la miniaturisation font ça sur la Lune.
Et s'ils réussissent en fait leur coup, ils seront le cinquième pays à avoir réussi un alunissage.
Ah oui. Ouais.
Donc tu disais dans l'émission là, Axel,
juste avant eux, du coup, ouais. Le quatrième, j'imagine, c'est les Indiens. J'ai pas retenu le nom de du programme spatial
Chandra, quelque chose.
Indien. Alors oui, alors le lander s'appelle Chandrayaan, Chandrayaan, quelque chose comme ça. Mais non, mais le nom de l'agence spatiale indienne, je sais plus. D'ailleurs, j'ai lu que l'Inde voulait changer de nom, mais bref, rien à voir. Et cet atterrisseur, du coup, les Indiens qui arrivent du premier coup, c'est leur premier essai, je crois. Non, si, c'est ça, je crois. À atterrir en plus dans une zone accidentée de la Lune. Alors dans les grands médias, on a lu ils ont atterri au pôle sud, au pôle sud. En fait, ils sont au pôle sud comme la Norvège est au pôle nord un peu. Enfin,
ils sont proches, mais pas
au pôle sud. Par contre, c'est une zone où il y a, on le voit nous avec nos télescopes, une zone où il y a beaucoup plus de cratères. Là où les missions Apollo avaient choisi d'atterrir dans les mers, ce qu'on appelle les mers lunaires, qui sont beaucoup plus plates et donc plus faciles à voilà, pour choisir un endroit où atterrir. Et donc ils ont réussi ça, un atterrisseur, un petit labo posé là-bas, avec un rover aussi qui s'est déployé le lendemain ou le surlendemain, qui a fait quelques centaines de mètres, qui a étudié certaines choses. Ils ont trouvé une température que personne ne s'attendait à trouver là-bas, de l'ordre de 60 degrés de jour, je crois. Et, oui, parce qu'ils ont atterri du coup, pendant le jour lunaire à cet endroit-là. Et là, depuis la semaine dernière, ils sont dans la nuit. Et ils ont eu le temps de recharger toutes les batteries. Ils espèrent pouvoir reprendre le contact d'ici 28 jours, quoi, enfin un peu moins, d'ici 15 jours.
Ah oui.
Tant que le jour revienne à cet endroit de la Lune. Voilà.
C'est sûr que la Lune, bon, ça mériterait presque un de ces jours-là d'en faire une émission à part entière, là, parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment, bon, mais principalement avec Artemis. Hein, oui. Et puis tous ces programmes, on le sait, on est vraiment dans une phase où dans les, on va dire, 10 prochaines années, ça a énormément bougé autour de la Lune. Mmh. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Les Russes, pour finir dans cette série-là, les Russes qui, eux, n'ont pas réussi à atterrir sur la Lune, ils l'ont déjà fait auparavant, bien sûr, mais ils ont envoyé un atterrisseur qui s'est crashé. J'ai plus les termes exacts du communiqué de presse de Roscosmos, mais c'était très formel, c'est marrant. Enfin, l'objet a cessé d'exister suite à une rencontre avec le régolithe. Bon, il s'est crashé. Quoi.
C'est crashé.
Et c'est, ce qui est marrant, c'est que c'est Luna 25, je crois, il s'appelait cet atterrisseur. Les États-Unis qui ont un satellite autour de la Lune, le LRO, qui prend des photos de la Lune à très bonne résolution, un peu l'équivalent de Google Street View là, chez nous. Enfin, pas Street View, mais Google Maps. Ils ont trouvé l'endroit où il s'est crashé. Ils ont mis des photos avant, après, on voit un petit nouveau cratère. Quoi. Ils ont fait un cratère russe sur la Lune.
Luna 25, c'est quand même la 25e mission qu'ils envoient sur la Lune.
Ouais.
Et il y en a beaucoup qui ont marché, hein, mais c'était dans les années 70. Quoi. C'était...
Mais on pourrait parler aussi longuement de Roscosmos, ouais, de l'industrie aérospatiale russe qui n'a plus la gloire qu'elle a pu avoir il y a 50 ans.
Non.
Et, bon, pour plein de raisons, peut-être on y reviendra.
Ok, alors voilà pour la Lune. Voilà pour cet atterrisseur, ce nouvel atterrisseur japonais. Dans la suite des actus, qu'est-ce qu'on a? Bah, je vais le mentionner.
En parlant de Lune.
Ouais, alors en parlant de Lune, je voulais mentionner la petite conjonction. Bah, c'est aussi la Lune. Hein. Il y a une conjonction entre la Lune et Saturne qui va se passer le 26 septembre. Voilà, donc vous pouvez le noter. Ça peut être, moi, je me dis, à l'œil nu, ça ne va pas forcément rendre quelque chose de très intéressant, mais si je me demande si au télescope, ils sont suffisamment proches pour qu'on puisse voir et la Lune et Saturne dans le même champ. Ça pourrait être quand même assez sympathique. Donc à surveiller. Et effectivement, Axel, on voulait mentionner cette histoire de super Blue Moon dont les médias ont parlé. C'était fin du mois, tout début septembre. Hein.
C'était
fin
du mois, la dernière. 31, je crois.
Voilà. Donc, on vous avez peut-être entendu, oui, attends, ça va être extraordinaire, la super lune bleue, etc. Donc, en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on appelle Blue Moon, ou en anglais, lune bleue, c'est en fait quand il y a deux pleines lunes dans le même mois.
Oui. coïncidence. C'est le cycle lunaire est de 28 jours, voilà. Les mois font 31 de temps en temps.
De temps en temps, il y en a deux dans le même mois. Si qu'il y en ait une qui soit le premier, par exemple, et ben, là, ça devait être le cas, il devait y en avoir une le 2 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça tombe 28 ou 29 jours plus tard. Et donc, ça fait à la fin du mois. Donc, en fait, c'est uniquement ça. Mais en termes d'astronomie, ça n'a aucun sens.
Elle n'est pas bleue du tout.
Voilà. Alors là, ils ont appelé ça en plus Super Blue Moon parce que, en plus de ça, la Lune était, on va dire, on était au plus près de la Terre. Et donc, elle était le plus gros.
C'est une deuxième coïncidence. C'est ça. Elle était à la fois au plus près de la Terre et pleine.
Voilà.
Il y a plein de moments où elle est au plus près de la Terre, mais pas pleine.
Voilà.
Plein de moments où elle est pleine sans elle. Mais là, c'est ça. Et Super Lune, ouais, c'est un terme inventé par un astrologue dans les années 80 pour parler de ce phénomène. Les scientifiques préfèrent le terme de périgée syzygie.
Un peu complet.
Périgée au plus près de la Terre et syzygie, ça doit être en rapport avec l'illumination. Mais en tout cas, on s'attend à la voir plus grosse. Des fois, ils donnent des chiffres aberrants de taille plus grosse. Et j'aime bien rappeler que la Lune, on estime mal sa taille. Si on demande aux gens, prenez dans votre porte-monnaie, quelle pièce la plus petite suffirait à cacher la Lune à bras tendu comme ça. Et souvent, les gens vont répondre une pièce de 50 centimes, ou peut-être un peu plus petit, 20 centimes. Et maintenant, en fait, même une pièce de 1 centime, c'est déjà trop gros. C'est déjà plus gros que la Lune à bras tendu, une pièce d'un centime. Et la super Lune, du coup, elle est 10% plus grande en moyenne. Là, c'était 7% pour ce coup-ci. Donc, vous imaginez une pièce de 1 centime, vous la découpez en 10 et vous rajoutez une de ses parties en plus. Quoi. Ça fait ça à bras tendu. Voilà. Donc, à l'œil nu, c'est totalement négligeable. En photo, il faut avoir l'œil pour remarquer que c'est un peu plus gros. Par contre, elle illumine un peu plus, ça c'est vrai. Ça nous donne des nuits plus claires qu'une pleine lune. Oui. Plus classique.
En tout cas, on pourrait dire pas de quoi fouetter un chat. Enfin, en fait, il se passe rien du tout. Mais c'est un exemple, voilà, où par exemple dans les médias, on va vous dire il se passe ça, c'est extraordinaire, etc. Alors qu'en réalité, il se passe rien et qu'il n'y a pas grand-chose à observer. Ouais. Donc voilà, c'est juste une petite méfiance aussi par rapport aux effets d'annonce qui peuvent être faits. Voilà pour cette Blue Moon, on évacue le truc. Tu voulais parler d'impact sur Jupiter ou pas spécialement?
Allez, ouais, avant de, ouais, ouais, ouais. Oui, il y a eu deux fois d'affilée, hein, d'abord des Chinois, puis ensuite des Japonais, des astronomes amateurs qui étaient en train d'imager Jupiter et qui ont capté pendant la vidéo d'acquisition un flash à un endroit sur Jupiter assez étendu. Ils ont fait remonter l'info à des scientifiques qui ont confirmé que c'était un petit bout de caillou, un petit bout d'astéroïde qui était rentré dans Jupiter, et en gros une étoile filante dans Jupiter, quoi, vue depuis la Terre.
Tu as observé ça en direct quand même.
Ouais, et puis en plus un amateur, quoi. Je me dis, moi, il y a eu plein de soirs où j'ai imagé Jupiter et il s'est rien passé. Bon, ils m'ont pas prévenu. Mais ouais, il y en a eu un et puis un deuxième juste après, donc probablement venant du même corps à la base, du même objet. Et voilà, ça arrive de temps en temps, une petite surprise comme ça. On pourrait se dire, ah mince, il y a eu un défaut sur mon image, mais non, on a capté un truc assez rare. Ouais.
Voilà. Et pour terminer ces actus, on va vous parler de la comète Nishimura. Donc effectivement, vous avez peut-être entendu ça en ce début du mois de septembre. Il y a une comète qui vient nous rendre visite. Alors, on vous dit qu'elle est visible à l'œil nu. Oui, peut-être. Le problème, en fait, c'est qu'elle est dans le Lion. Et en fait, le Lion, il se couche très tôt. Et non, elle est très près du Soleil, en fait, cette comète. Donc en fait, pour l'observer, ça va être compliqué.
Oui, en ce moment, c'est à l'heure où on enregistre, début septembre, elle est visible à l'œil nu au tout petit matin, juste avant que le soleil se lève, donc à 6h ou quelque chose comme ça. Et bientôt, elle va être trop proche du soleil, on ne pourra plus la voir.
Alors, elle va passer dans la Vierge. En fait, elle se déplace quand même assez vite sur le fond du ciel. D'ici une dizaine de jours, elle sera dans la Vierge. Bon, voilà. Donc, à essayer de toute façon, soit vous essayez de la voir le soir, mais à condition d'avoir un horizon vraiment extrêmement dégagé sur l'ouest, pour qu'il ne faut pas qu'il y ait une montagne ou quoi que ce soit, pour espérer peut-être la voir. Et sinon, au matin. Mais un peu dans les mêmes conditions, à ce moment-là, c'est un horizon très très dégagé sur l'est qu'il faudra avoir. En tout cas, c'est très bas sur l'horizon, c'est très près du soleil, donc en fait, c'est pas la peine de s'emballer sur cette comète, parce qu'à observer, ça va être un peu technique.
Et en plus, elle est déjà passée plus près du soleil, à son périhélie, et du coup, maintenant, elle va faire que briller moins petit à petit. Elle s'éloigne de la Terre et en plus, elle s'éloigne du soleil. Donc. Des choses qui font qu'elle va briller de moins en moins. Elle est montée maximum de magnitude, à, enfin minimum du coup à 5,8 je crois, donc à peine visible à l'œil nu. Je rappelle, on peut voir jusqu'à la magnitude 6 et ouais. En augmentant on ne voit plus. Et donc là voilà, elle a passé le périhélie, elle va briller de moins en moins. Donc, je pense que à l'œil nu ça...
Ouais, après, bon, on peut aux jumelles. Ouais.
Un petit challenge.
Ouais, donc à tester, essayez si vous voyez quelque chose. Bon, après, même si on la voit aussi bas sur l'horizon, l'image de toute façon sera pas bonne, toujours oui. À cause de l'atmosphère. Hein. Au niveau de l'horizon, ça turbule beaucoup.
Oui, parce que tu disais, elle est dans le Lion. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas, c'est normal, sauf au petit matin, et c'est sous la Grande Ourse. Donc si vous trouvez la Grande Ourse, vous dites, dessous, effectivement, il y a l'horizon.
Bien en dessous.
Ah oui, ouais. C'est bien loin en dessous de la Grande Ourse.
Alors voilà, pour ces actus, ça nous amène donc au ciel ce soir. Hein. On vient de vous parler du Lion. Et ben, le Lion, cette constellation est en train de disparaître. On est en début de soirée, mais on a encore on va dire le ciel d'été, le triangle d'été qui est bien présent, bien, hein. Qui est bien là, même au zénith en fait.
Saturne qui est là dès le coucher du soleil.
Saturne.
Non, tu voulais parler des constellations d'abord.
Oui, bon, vas-y, hein, Saturne.
Non, Saturne, ouais, qui est là dès le coucher du soleil, on la voit si on a un horizon est un peu dégagé. Et Jupiter qui se lève beaucoup plus tard.
Saturne, elle est où en ce moment? Elle est dans...
Alors, dans les constellations, Saturne est dans le Capricorne et Jupiter dans le Bélier.
Voilà.
Et du coup, le Bélier qui se lève quand même beaucoup plus tôt qu'au début de l'été. En ce moment, on peut la voir à partir de minuit, Jupiter, bien brillante dans le ciel. On se rapproche de l'opposition, le moment où elle sera le plus proche de nous.
Donc là, comme le ciel d'été est en train de partir, en réalité, il y a une très belle constellation qui maintenant arrive, c'est Pégase.
Oui.
Sous Pégase, vous avez les Poissons. Et encore un peu après, un peu plus tard, va se lever effectivement le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque.
Avec les Pléiades.
Après les Poissons, donc les Béliers, le Bélier, le Taureau, les Pléiades. Voilà. Ouais. Voilà les constellations qui apparaissent, qui reviennent en ce moment. Et vous pouvez observer Pégase. Essayez de le repérer parce que on dit le carré de Pégase. C'est vraiment une belle constellation qui, une fois qu'on l'a dans l'œil, parce que vous pourrez peut-être vous dire bah, des carrés, 4 étoiles, je fais des carrés où vous voulez, mais en fait, il y a vraiment y a un vrai carré.
Ouais, le carré Pégase. Vide, surtout. Enfin,
ouais, il n'y a pas grand-chose au milieu de ces étoiles-là. Donc voilà ce que vous pouvez...
Et surtout, ça permet de repérer Andromède.
Ça permet de repérer Andromède, ouais. Oui, bien sûr. Parce que en fait, quand vous prolongez Pégase, on va dire en haut à gauche du carré, vous avez la constellation d'Andromède en fait qui est collée.
Elle se mélange même.
Oui, ouais. Elle se mélange. Elle prolonge en fait quelque part le haut du carré de Pégase. Et là, assez facilement, vous pouvez repérer la grande galaxie d'Andromède. Voilà, pour le ciel ce soir. Il y a Vénus matin.
Moi, j'ai fait des petites observations de Vénus le matin.
Oui.
Elle sort, il n'y a pas longtemps, on peut l'observer. Elle sort un petit peu. Elle commence le matin. Ouais.
Elle brille bien.
Ouais, elle est bien visible.
Tu l'as observée au télescope?
Non. À l'œil nu, elle sort au-dessus du Glandas, là. Mais pas longtemps.
Donc voilà pour ce ciel. Si vous voulez creuser un peu plus, prenez une carte du ciel ou utilisez ces applications sur les téléphones qui, mine de rien, sont quand même super pratiques quand on n'a personne à côté de soi pour vous expliquer quelles sont ces étoiles.
Ouais.
Quand même un joli outil, mine de rien, bien pratique pour apprendre le ciel quand on est tout seul et qu'on n'y connaît rien. Voilà, vous pouvez aussi venir aux soirées astro qu'on organise. Voilà pour le ciel ce soir. Écoute, Pierrick, c'est le grand moment de la chronique spatiale. Allez. Et donc, tu vas nous parler de SpaceX. Moi, j'avoue que SpaceX, c'est quand même quelque chose qui... ça génère une espèce de... d'aura un peu mythique. Enfin, ouais. C'est un peu mitigé, les sentiments que ça peut générer, SpaceX.
C'est quand même de l'exploration à fond. Donc, quand même un boulot d'ingénierie qui est important.
C'est aussi un gros business.
Bien sûr, mais quand même, il envoie...
On t'écoute, c'est parti.
Allez. Alors, SpaceX, donc c'est une entreprise qui appartient en grande majorité à Elon Musk, avec, l'homme le plus riche du monde. Hein. Je crois que sa fortune est estimée à 273 milliards de dollars. Sa fortune personnelle.
un peu just.
Voilà. Et SpaceX, je crois que c'est estimé à 130 milliards de dollars, la société. Parce que oui, il en a plusieurs et que du coup, tout s'accumuler, ça fait... Bon. En tout cas, Elon Musk, voilà, personne très très riche. Donc SpaceX, son entreprise de lancement de fusées, hein, emploie dans les 10 000 personnes. Donc c'est quand même c'est un gros truc quand même. C'est le prestataire privé de la NASA. Et ils travaillent ensemble en fait depuis les échecs des navettes spatiales qui ont explosé à la NASA. La NASA a arrêté de faire des navettes spatiales et pendant longtemps elle s'est retrouvée sans pouvoir emmener des êtres humains dans l'espace. Il n'y avait plus de solution. Comme les navettes spatiales étaient trop incertaines, il y a quand même deux gros accidents qui ont coûté la vie à une vingtaine de personnes, je ne sais plus. Ils se sont dit, bon, on arrête ça et comment on fait? Et du coup, c'est là où SpaceX a un peu tiré son épingle du jeu à ce moment-là.
Il y a eu des appels d'offres. Et
ouais.
C'est eux qui,
ça, c'était en 2011.
Ça fonctionne de plus en plus comme ça, j'ai l'impression, le spatial avec du sous-traitement. En fait.
Ouais, carrément.
Ah, du privé. Mmh. Et que la NASA.
Non, ils ont plus de sous qu'à la grande époque des années 70.
C'est
ça. Il y avait plein de sous pour les agences spatiales. Maintenant, il y en a moins, mais les privés ont plein de sous, donc ils s'arrangent.
C'est ça, ouais. Et du coup, SpaceX a quand même son lanceur fétiche, un Falcon 9, là, avec des moteurs Merlin. Donc cette fusée, elle est déclinée en plusieurs options en fait. Soit elle emmène des gens, donc ça s'appelle Crew Dragon, ça c'est la capsule en fait où il y a des gens dedans. Et soit elle est en version cargo en fait c'est juste pour ravitailler l'ISS en matériel et en évacuer les poubelles au retour. Ça c'est la version cargo qui s'appelle Dragon, voilà, pour un peu préciser qui fait quoi. Et SpaceX a trois installations de lancement, une à Cap Canaveral, donc ça c'est
chez la NASA.
En Floride, l'endroit où la NASA lance ses fusées. À Vandenberg, ça c'est une base plutôt de l'armée américaine. Pareil, ils ont un endroit pour lancer les fusées. Et ils développent aussi leur propre site de lancement à Boca Chica, au Texas. Donc ça c'est leur propre lancement, c'est là où ils expérimentent les Starships. J'en reviendrai après. Et du coup, SpaceX, son gros créneau, c'est la diminution des coûts. Il veut contribuer à l'essor spatial, à rendre le lanceur à ce que ça soit quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus commun. Abordable et moins cher. Et donc, pour réduire les coûts, de lancement, il réutilise les lanceurs. C'est-à-dire qu'il envoie les fusées. Et au bout de la fusée, il y a la capsule ou le satellite, ce qu'on veut. Donc ça se décroche. Dès que c'est sorti de la pesanteur, ça se décroche. Et le lanceur, il retombe. Alors avant, il retombait et il se faisait cramer dans l'atmosphère. Et maintenant, ce lanceur, en fait, il est freiné comme une fusée. Hein. Le moteur, il s'allume et ça la freine. Et ils arrivent à bien viser en fait, c'est quand même un délire hyper précis parce qu'ils arrivent à atterrir sur des plateformes en pleine mer. Donc il faut quand même viser juste. Donc il y a eu plein d'erreurs, hein, mais maintenant ça a l'air quand même fiable. Il n'y a pas d'accident. Et ils réutilisent les lanceurs 3-4 fois, je crois. Hein. Donc voilà, à partir de là, il a gagné de l'argent. Et moi, j'avais trippé un moment, il y a quelques années déjà, quand la Falcon 9 était sortie, là, il avait lancé une voiture, une Tesla. C'était une voiture, juste, c'était pour rigoler, hein, c'était un vol d'essai, et il avait lancé dans la capsule, il y avait une Tesla avec un mannequin accoudé dans une décapotable qui est parti en direction de Mars. Bon, voilà, c'est un délire.
C'était un vol de test, il fallait un poids pour simuler la charge utile. Quoi. Il s'est dit, je mets ma voiture.
Voilà, et alors SpaceX et Elon Musk, le gros chantier qu'il veut faire de sa vie, quoi, c'est du transport pour coloniser Mars. Ça, c'est vraiment ce qu'il aimerait faire pour 2035, a priori. Bon, voilà, ça c'est toujours aléatoire, mais
Bah, c'est l'objectif de toute façon du spatial en ce moment. Hein. C'est quand même déjà la Lune, première étape, pour elle-même, mais aussi dans l'idée l'étape d'après, c'est Mars. Ils en parlent tous. Hein,
Il continue son délire. Quoi. Et donc pour ce faire, il a développé une énorme fusée, le Starship. Donc là, c'est vraiment une grosse fusée qui est encore un peu plus grosse que la Saturn V, la fusée des lanceurs Apollo, des missions lunaires américaines. Donc c'est vraiment du gros lanceur. Ça fait 119 mètres de haut, à peu près 10 mètres de diamètre. Ça fait 5700 tonnes. Il y a 39 moteurs pour pousser le machin. Voilà.
Énorme.
C'est énorme. Et en plus, elle est un revêtement en acier inoxydable. Tu vois, un truc brillant là. On dirait un avion. Ouais, on dirait chromé. On dirait un vieil avion rifté, chromé. Bon. Voilà. Et ça, pareil, ce lanceur, bah, il est réutilisable. Il permettrait de monter beaucoup de carburant, de monter beaucoup de charge en orbite. Et pour lui aussi, de faire des allers-retours sur Mars. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Et là, en septembre, ce lanceur, il ne marche pas encore. Il est en phase de test. Hein, il n'a jamais été hors atmosphère, je crois.
Oui.
Donc là, en septembre, il a un nouveau modèle qui va essayer d'envoyer dans l'espace. Je crois que là, ils veulent atteindre l'orbite. Voilà, il a eu beaucoup d'échecs avec ce lanceur. Et lui, il appelle ça du désassemblage rapide imprévu.
Ouais, c'est en Floride, il dit ça, la NASA le disait déjà.
Ouais. Voilà, et du coup, là, en fait, comme il envoie des trucs qui explosent dans le ciel souvent, je crois que la fédération qui contrôle un peu les vols aux États-Unis, là, tout ce qui est aérien, elle regarde un peu ce qu'il fait, a priori, et s'ils ont appris de leur échec et s'ils peuvent mieux gérer les prochains échecs. Donc là, apparemment, il aurait mis un mur d'eau. Quand la fusée va décoller, il va y avoir un espèce de mur d'eau autour pour refroidir, en fait, parce que sinon, ça chauffe trop et ça désingue complètement le béton, pâtir, le bâtir, ça le défonce, il y a des débris de partout à plusieurs kilomètres apparemment autour, enfin c'est une bombe quand même, enfin voilà. Donc voilà, mais bon, je doute pas qu'il va y arriver, hein.
Oui, au bout d'un moment.
En tout cas, ça marche déjà bien. Alors le spaceship peut-être pas encore, mais en tout cas tous ces
La Falcon 9 elle marche très bien.
Ça marche très bien. Hein,
tous les ans, ils explosent, ils augmentent leur nombre de lancers. Mm-hmm. En fait, c'est énorme. Et il y a aussi un truc, du coup, c'est que ce partenariat avec la NASA, c'est qu'ils sont inclus, ils sont partie prenante, ils sont indispensables dans le projet Artemis, là, de projet NASA de retour sur la Lune, de retour d'êtres humains sur la Lune. Ils sont avec ce vaisseau, du coup. Du coup, voilà.
Bon. Juste quand même aussi pour rappel, il y a énormément de lancements qui sont faits. Mais en fait, la plupart des lancements, c'est pour des satellites qui sont là pour surveiller la Terre, par exemple, ou des satellites de communication, ou des satellites militaires. En fait, le nombre d'objets qu'on met en orbite qui ont vraiment un rapport avec la science, en réalité, c'est une minorité.
Oui, c'est très faible.
Mais donc,
oui.
Des lancements, il y en a plein, en fait. Mm-hmm. Il y en a vraiment beaucoup.
Oui, qu'on ne voit pas tout
dont
le temps.
Dont on ne parle pas, parce que en fait, c'est des compagnies qui veulent mettre un satellite en orbite, ou c'est des États ou des choses, pour des choses, bon, sans compter les militaires, etc. Mais pour la science, c'est une petite partie des lancements.
Je crois que SpaceX, c'est 60 lancements par an. Voilà, donc nous, je sais pas, on en voit 3 parce qu'il y a 3 bonhommes, enfin, il y a des bonhommes des fois dedans. Mais...
Oui, ça en fait quand même plus d'un par semaine, donc
c'est
pas rien.
Ouais,
ça tourne bien.
Ouais, ça tourne, quoi. Hein.
L'usine, l'espace.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Voilà, alors on peut parler d'un petit peu d'Elon Musk quand même, du personnage.
Si tu y tiens.
Bah, je sais pas. En fait, il a fait, au début de sa carrière, la fortune qu'il a lancée, c'est parce qu'il a créé PayPal et qu'il l'a revendu. À partir de là, il était milliardaire et du coup, il a pu créer SpaceX et faire d'autres projets.
Bah d'abord Tesla.
Peut-être, ouais, je ne sais pas dans quel ordre.
Je crois que c'était d'abord Tesla. Ouais.
C'est un Sud-Africain.
Oui, d'abord ses parents qui avaient des mines d'émeraude en Sud-Afrique aussi. Oui. Ça aide pour créer PayPal et tout.
Au début, il voulait racheter des missiles aux Russes pour faire des fusées. Mais ils n'ont pas voulu. Voilà, ça m'a fait rire. Il veut aussi créer, il est dans plein de projets différents. Et il veut aussi, il a une entreprise qui s'appelle Neuralink. Ça, je ne connaissais pas, mais son projet, c'est de relier le cerveau humain à des circuits intégrés.
À des ordi.
À des ordi. Oui. Pour fusionner l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Oui. Tadam. Il a aussi un autre truc qui s'appelle The Boring Company. Ça, c'est l'Hyperloop, là. C'est l'Hyperloop, c'est un projet de. Mais ça,
Il l'a vendu, non ?
Ouais, ou ça marche pas bien.
Il l'a donné, même, je crois, le concept.
En tout cas, l'Hyperloop, c'est un truc de. C'est, tu voyages dans un tube, en fait, dans une capsule qui est à l'intérieur d'un tube. Et du coup, tu peux voyager à je sais plus combien de kilomètres heure.
Ouais,
c'est très
rapide. Si tu rentres avec ta voiture, elle monte sur un petit plateau. Ah, ce plateau, oui. Il est sur des rails, et là, tu vas en mode TGV dans ta voiture. Ça demande de construire des tunnels immenses sur toutes les villes, ce que personne n'a envie de faire, du coup ça marche pas.
Mais je crois qu'à Los Angeles, ça a un peu commencé, mais bon, j'en sais rien.
Oui, il y a des essais au Texas aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Oui.
Voilà.
Il a aussi donné un nom complètement surréaliste à son fils. Ouais. Il lui a donné un nom de robot, X3927, je sais pas quoi.
Ah bon ?
Ouais, drôle de personnage.
Tu n'as pas parlé aussi de Starlink, qui fait beaucoup parler de Starlink.
On en parle tellement souvent.
Mais j'en reparle un peu parce que moi, je vois encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. À chaque fois qu'il y a un train de Starlink, je vois des gens paniquer. Des gens qui m'appellent des fois. Vous avez vu hier ? Oui, c'est rien. Parce qu'avec ces fusées du coup, qui ne coûtent pas cher, ça lui permet d'envoyer plein de satellites aussi pour lui, en dehors de ses contrats, de ce qu'il vend, des lancements commerciaux. Il envoie une soixantaine de satellites par lancement, des satellites de communication, enfin pour vendre ensuite Internet. Il a lancé d'ailleurs le truc en France, là, je crois que c'est 50€ par mois pour Internet au débit par satellite. Et donc ça, voilà, c'est l'idée d'avoir des satellites tout le temps au-dessus de nous, d'en avoir assez pour qu'il y en ait toujours un que l'antenne peut capter. Et depuis 4 ans qu'il a commencé cette entreprise, là, 4 ou 5 ans, il a envoyé plus de satellites que tout ce que l'humanité avait envoyé depuis Sputnik, le premier satellite. Mmh. On en a envoyé à peu près 10 000 en 60 ans, là, et lui, il en a envoyé 10 000 en 4 ans.
Le truc, c'est qu'il me semble bien que les Chinois aussi font le même genre de choses. Chacun se fait son petit système. Les Européens aimeraient bien s'en faire un aussi.
Même d'autres Américains, vu que lui, c'est pas
un État. Voilà, c'est pas un État.
Donc,
voilà.
Y a d'autres
donc en fait, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de milliers de satellites de communication qui viennent encombrer les orbites autour de la Terre.
Bon, après, il faut bien comprendre que c'est un lancement et il en lance. Dans un lancement, il y en a 20, 60
par lancement. Et donc, ce que je n'ai pas fini
c'est
de dire.
Petits, hein, c'est des petits.
Ouais, ça fait une grosse boîte à chaussures, là. Et la fusée arrive en orbite, elle les largue un par un, les 60, et ensuite chacun va s'activer et avec son petit moteur prendre son orbite définitive. Mais ça nous donne pendant les 15 jours après le lancement un petit train, une petite guirlande de satellites dans le ciel, plein de petits points qui bougent en ligne. Et de jour en jour, on peut les voir s'espacer, ils passent toujours à peu près à la même heure, et on les voit s'espacer. Et donc, voilà, désolé de vous décevoir, mais c'est pas ça. Si vous voyez ça, c'est probablement pas des extraterrestres.
Pas encore la rencontre du troisième type.
C'est un milliardaire américain qui vend Internet.
Après, c'est sûr que. On a déjà parlé, hein, Musk, c'est pas forcément quelqu'un qu'on apprécie énormément par rapport à sa mentalité, par rapport à tout ce qu'il véhicule. Mais en attendant, il est sûr. Il y a un côté un peu visionnaire chez lui au sens où, pas où il invente forcément des trucs, mais il crée, en fait, il matérialise des idées qui sont là depuis longtemps. Mais par exemple, ce truc de fusionner, de connecter le cerveau humain à l'informatique, ça c'est...
Oui, c'est un thème qui a déjà été...
C'est un vieux thème de science-fiction, mais qui en même temps est clairement... sur le chemin de l'humanité, à un moment ou un autre. Enfin, moi, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ça finira par arriver et qu'on pourra réellement se faire cette interface, en fait. Et c'est vrai que ça ouvre des possibilités qui sont presque... ça fait peur, presque, en fait. Enfin, moi, je vois pas trop l'intérêt d'aller vers là, mais en même temps, vu que l'homme, il est pas capable de se retenir, de faire quelque chose quand il en a l'idée... que ce soit la bombe atomique, la voiture, des choses comme ça, il le fait. Quoi. Donc, Lui, il est là-dedans. Il était quand même dans les voitures électriques. Il était voilà.
Mais
il
même
est...
c'est une idée de science-fiction aussi. C'est pas à la base les Tesla, c'est pas voitures électriques. C'est surtout des voitures qui se conduisent toutes seules.
C'est ça aussi.
Ah oui, c'est, voilà.
C'est le cas.
Donc il est voilà, c'est quand même un homme d'affaires un peu à part, je trouve, parce qu'il vient chercher dans des endroits dans des choses un peu nouvelles, quoi, des applications
dans la fourmilière.
Ouais.
Et c'est là où il est aussi c'est très fort, c'est parce qu'il remplace un peu les gouvernements dans ce qu'il faisait. Par exemple, dans le spatial, avant, aucune entreprise privée n'avait cette ingénierie-là.
Oui.
Maintenant, ils ont l'ingénierie privée.
Mmh.
Tu vois, de la NASA, c'était énorme. C'était vraiment un truc d'ingénieur de fou. Mmh. Et il reprend ça, quoi.
Mais pour compléter un peu ce portrait, on peut quand même mentionner Twitter. Tu vois, parce que ça fait partie. Non, je vais pas en parler, mais juste pour dire aussi, moi, voilà, là où cet homme, il est quand même aussi, on peut discuter un peu de ses motivations, c'est que donc il a racheté Twitter, qu'il a rebaptisé X, je sais pas quoi, et en fait, il a dégagé tous les modérateurs. Et bilan des courses, en fait, son réseau devient en fait un lieu d'expression pour toute une galaxie qu'on peut qualifier de complotiste ou en tout cas qui frise quand même méchamment avec l'extrême droite.
Oui.
Et voilà le genre de choses. Il s'est un proche de Santis, etc. Bon, là on passe dans la politique, mais voilà où vont ces motivations et ses intérêts. Donc voilà Elon Musk.
Ouais.
Petite pause musicale.
Allez. Petite pause musicale, Axel, qu'est-ce que tu nous as concocté là?
Ben, je voulais refaire un coucou à Guillaume qui nous avait déjà conseillé Icarus, Kansas.
Oui.
On avait passé. Et la dernière fois que j'étais chez lui, il m'a fait écouter Supertramp, le premier album de Supertramp, qui s'appelle Supertramp et qui n'a rien à voir avec ce pourquoi Supertramp est connu après. On est en plein dans les années 70. Et du coup, voilà, un petit coucou à notre montreur d'étoiles des Baronies.
Salut à toi, Guillaume. We'll be right back. et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors, après cette petite pause musicale, on va continuer cet épisode 51 avec toi, Axel, qui aujourd'hui avait envie de nous parler de linguistique.
Ouais, du rapport entre linguistique et astro, je disais, en introduction. Eh ben, on va commencer au plus près de chez nous, avec les planètes qui tournent avec nous autour du Soleil. Déjà, je crois qu'on l'a déjà mentionné, d'où vient le mot planète ? Ça vient de astra planeta en grec. Planan, c'est errer, voilà, s'écarter. Et donc, c'était les astres errants, astra planeta, parce qu'ils avaient repéré ces cinq points qui bougeaient dans le ciel. Enfin, c'est quatre, plus la Lune. Mercure, ce qu'on appelle aujourd'hui Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. Ça bouge dans le ciel, les astres errants. Ça, leur nom, donc, nous, on a gardé la mythologie gréco-latine. Mais eux, ils s'étaient appuyés sur la mythologie mésopotamienne. Et par exemple, en Mésopotamie, on appelait déjà Vénus la dame du ciel, Inanna, ou la déesse de l'amour, c'était aussi Inanna. Et quand les Grecs se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, ils ont donné un ascendant à l'astronomie mésopotamienne. Ils se sont dit c'est mieux que la nôtre, c'est plus vieux, je sais pas. Et du coup, ils ont adapté leur truc, par exemple, parce que vous saviez que Vénus, les Grecs avaient deux noms pour Vénus. Selon qu'on la voyait le matin ou le soir, ils savaient que c'était la même planète, mais ils avaient deux noms. Ces deux noms que j'ai notés quelque part. Le matin, c'était Eosphoros, et le soir, c'était Hesperos. Et puis, comme voilà, ils ont vu que les Mésopotamiens, c'était en une seule planète, donc ils ont fait pareil. Ils ont dit, vous l'appelez comment ? Inanna, la déesse de l'amour, et ben chez nous, c'est Aphrodite, et puis chez les Romains, ensuite, Vénus. Ils ont fait pareil pour Jupiter, qui s'appelait Marduk, enfin, il avait plein de noms selon les différentes cultures, mais Marduk, c'était déjà le dieu des dieux. Parmi tous les noms, il y a par exemple, je prononce mal le mésopotamien, je pense, mais Dapinu, qui veut dire le puissant. Et donc voilà, avec tout ça, ils se sont dit c'est la plus brillante, c'est Zeus, notre dieu des dieux, donc Jupiter. Et puis pour les autres, c'était un peu plus approximatif, ils ont trouvé moins de corrélations comme ça. Et on a eu Ninurta, le champion des dieux, qui était Mercure, Hermès en grec. On a eu l'astre du malheur, Nergal, c'était Mars avec sa couleur rouge. Et puis Saturne, Cronos, c'était le régulier, Sagus. Voilà. Un peu d'où viennent le nom de ces planètes. Et puis j'aime bien le rappeler parce que j'ai remarqué que tout le monde ne le sait pas, ou je pense que les gens l'ont oublié. Mais le nom des planètes, c'est ce qui nous a donné le nom des jours. Autant en français, la Lune le lundi, Mars le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter, Vénus, Saturne le samedi. Et puis le dimanche, c'est en français le jour de Dieu. Mais en anglais, c'est un peu la même origine. Parce qu'ils avaient alors Monday, c'est pour la lune, la moon. Le mardi, c'est Tuesday. Tue, c'est Tyr. En fait, c'est des dieux. Eux, ils n'ont pas utilisé les dieux gréco-romains, mais plutôt les dieux scandinaves. Parce que les langues anglo-saxonnes, les germains, tout s'est mélangé pour donner l'anglais. Mais donc, Tyr, c'était le dieu de la guerre aussi. Et donc, pour Mars, c'est devenu Tuesday. Le mercredi, le Wednesday, c'est Odin, qui s'appelle parfois Woden. Et Thor pour le jeudi, Thor, le Thursday, tu vois, Thursday. Freya, c'était la déesse de la beauté aussi, donc pour Vénus, pour le vendredi, Freya qui donne Friday. Saturday, ça, ils n'avaient pas d'idée, ils sont calqués sur les gréco-romains, sur Saturne. Et le Sunday pour le soleil, avec la déesse Sunan, qui était la déesse du soleil. Voilà un petit peu pour ces planètes. Si on va un peu plus loin, toutes ces planètes, elles tournent autour de tout plein d'étoiles, enfin de toutes ces planètes d'une étoile, mais autant de toutes les autres étoiles, il y a des planètes qui forment une grande galaxie. Et galaxie, ça nous vient d'où ce mot ? Eh ben, ça vient du mot ogalaxias, qui veut dire laiteux. C'est un dérivé du mot togala, qui veut dire lait en grec, et de kyklos, le cercle. Et donc on retrouve parfois la forme autogalaxos kyklos, le cercle laiteux, le cercle de lait. Et qu'on a gardé, donc au début, voilà, il y avait ce phénomène dans le ciel visible, ils ont interprété ça comme ça, avec leur mythologie, avec le sein de Héra, qui du lait qui s'écoule. Et donc ce cercle laiteux, et puis ensuite on s'est rendu compte que c'était notre galaxie, on a gardé ce mot.
C'est ça, mais on s'en est rendu compte, mais bien plus tard.
Oui, oui.
Et ça, moi, c'est d'ailleurs une question que je me pose, j'ai pas encore trouvé la réponse, je ferai des recherches, si je trouve, je le dirai. Mais c'est à partir de quand l'humanité, elle a été consciente du concept de galaxie, c'est-à-dire du fait que les étoiles, elles se regroupent en galaxies. Et à mon avis, c'est 20e siècle, en fait, parce que je pense que c'est la question.
Mais en fait, déjà, Galilée avait repéré que la Voie lactée, c'était plein d'étoiles. C'était déjà la première confirmation de la nature de la Voie lactée, plein d'étoiles. En zoomant dessus avec des jumelles, on voit que c'est plein d'étoiles. Et après, d'où ça vient exactement? Je sais qu'en 1924, Hubble...
Voilà, il y a les observations de Hubble, clairement.
Lui, il a compris qu'il y avait d'autres galaxies. Donc ça veut dire qu'on connaissait déjà la galaxie.
En fait, ce qu'il a vu surtout, c'est qu'il y avait des taches floues un peu partout et c'était des nébuleuses au départ. Tout ça, pour lui, c'était des nébuleuses. Et il s'est rendu compte que certaines de ces nébuleuses étaient beaucoup plus éloignées que d'autres.
Oui, mais il avait l'idée que ces nébuleuses étaient peut-être dans notre galaxie. Enfin, il y avait cette idée que tout était dans ce qu'on appelait la galaxie dans laquelle on se trouvait et qu'après, c'était le vide de l'univers. Et puis Hubble lui s'est dit, ah non, mais là, ce que je mesure, c'est, ça ne peut pas être dans notre galaxie, c'est bien plus loin que tout le reste.
Et donc, ce sont d'autres galaxies. Ouais. Après, je me dis, avec un instrument d'optique, donc à partir de Galilée, il y a quand même la galaxie d'Andromède. Donc, le fait d'observer ça, est-ce qu'on est capable de se dire.
C'est pareil, c'était la nébuleuse d'Andromède jusqu'en 1924.
Ouais, donc, je ne sais pas, moi, c'est une question que je me pose, c'est à partir de quand on a été capable de comprendre le concept de galaxie. Ouais, ouais. Et de là aussi faire le lien entre cette Voie lactée qu'on observe et comprendre que c'est notre galaxie, vu par la tranche.
J'ai pas de réponse franchement à donner, mais pour moi c'est entre 17e et 19e.
C'est une question par là que je me pose.
Je sais pas si c'est un Herschel, un Copernic, un Tycho Brahe, je sais pas qui a trouvé
ça. J'ai commencé un peu à chercher, mais j'ai pas trouvé de réponse directe. C'est pas simple en fait de trouver la réponse à cette question.
Je trouve ça marrant là d'avoir gardé ce mot cercle laiteux pour parler aussi des autres au final, des autres galaxies, enfin tout ce chemin qui s'est fait et puis j'ai pas parlé avant de partir dans la galaxie, j'ai pas parlé de la Lune. Évidemment, il y a plein de mots dans notre quotidien qui se rapportent à la Lune, les lunettes, le lunatique, parce qu'on change, comme on est variable, les lunules, les petits trucs blancs qu'on a au bout des ongles qui ressemblent à des lunes, On a les poissons lunes qui ont la forme de lune. Même tous les matins, on mange un croissant. Et ça s'appelle croissant parce qu'on parle de croissant lunaire avant et qu'on a inventé cette pâtisserie, cette viennoiserie. Et on a pris ce nom. Dans les autres mots, on parle de stars, du cinéma ou de la musique. Les stars, les étoiles en anglais. Et puis des petits mots un peu plus ciblés. Le mot septentrional, par exemple, pour indiquer le nord, qui vient à la base de la grande ours, où les Romains voyaient sept bœufs et pas une ours. Sept étoiles, c'était les sept bœufs. Et en latin, les sept bœufs, c'est septemtriones. Donc ça nous a donné septentrional. De l'autre côté de la Méditerranée, dans la culture arabe, ça nous a donné aussi les mots zénith, azimut, qu'on utilise d'abord en astronomie, qui ont été inventés pour l'astronomie, pour parler de le zénith au-dessus de nous, et puis qu'on utilise maintenant dans des expressions à tout azimut, des choses comme ça, ou les salles de concert, le zénith, qui ont rejoint le quotidien et qui viennent à la base de l'astro. Le mot période aussi, qui vient des Grecs, qui observaient, c'est formé de deux mots, péri, odès, qui veut dire le chemin autour. Et donc, en voyant les phases de la Lune, et la Lune qui tournait autour de la Terre, période. Voilà un petit peu ce que j'ai trouvé. Puis pour finir, puisque maintenant on est au mois de septembre, mais on a eu un peu chaud cet été. Le mot canicule vient de l'astronomie directement aussi, puisque à l'Antiquité et en Grèce, en Égypte, depuis ses latitudes un peu plus au sud que chez nous, du coup, et il y a 2500 ans, le soleil se levait en même temps que Sirius. Enfin, Sirius accompagnait le soleil toute la journée entre juillet et août. Et du coup, ils se demandaient si les chaleurs de juillet et août n'étaient pas venant de cette étoile. D'ailleurs, Sirius, en grec, ça veut dire brûlant, ardent. Et donc, Sirius, la constellation du grand chien, le chien canis, ça nous a donné le mot canicule. On a aussi, pour finir, l'expression tirer des plans sur la comète. Ça, c'est assez récent. Ça date d'une grande comète, je vais parler brièvement, qui a eu lieu en 1882. 1882. en septembre, une comète qui est apparue, qui a été visible jusqu'au mois de mars 83. Donc quand même pendant plusieurs mois. Elle était visible même de jour, au moment de son périhélie, au plus près du Soleil pour elle. Elle était visible de jour à côté du Soleil, à peu près 3 degrés du Soleil, donc à 2 doigts, 3 doigts du Soleil à bras tendus, comme ça. Et au mois d'octobre, sa queue s'étendait sur 30 degrés.
Ah ouais.
30 degrés à bras tendus, si vous écartez les pouces, vous les faites toucher, ça fait d'un point à l'autre, enfin, voilà, toute la largeur de vos mains. Avec les pouces qui se touchent, 30 degrés de queue de comète, et, enfin, voilà, visible longtemps. Et donc, comme la comète, ça a l'idée d'être éphémère, d'être un peu instable, on ne sait pas quand ça apparaît, quand ça va revenir, quand ça disparaît. Et contrairement à l'idée de faire des plans pour l'architecture et tout ça, là, on veut que ça soit précis et sérieux. Et donc, faire des plans sur la comète, c'est un peu faire un truc un peu hasardeux et peut-être un peu éphémère. Voilà un petit peu pour ce que j'ai trouvé sur ces mots. Il y en a plein d'autres, mais qui viennent directement de l'astro dans notre quotidien presque. Et puis j'avais envie de finir ma petite chronique avec une citation, comme je suis en train de faire les vendanges en ce moment, et que tout le Diwa est en train de faire les vendanges. Le rapport entre les vendanges et l'astro, non, je ne vais pas reparler de Michel Mayor qui boit de la clarette pour fêter la première découverte d'une exoplanète. Ah mince, je l'ai dit. Non, une citation de Galilée, Galiléo, qui disait: le soleil, avec toutes ses planètes sous sa gouverne, trouve encore le temps de mûrir une grappe de raisin, comme s'il n'y avait rien de plus important.
Bravo. Comme quoi, les scientifiques aiment aussi le vin.
N'empêche pas. Voilà, messieurs, mes petites recherches sur le...
Bah super.
Et puis, un de ces jours, je pense que je parlerai d'étymologie arabe aussi, puisque énormément d'étoiles portent des noms arabes. Oui. Je vous en donne deux comme ça pour teaser un peu cette future chronique. Il y a la fameuse Deneb, une des trois étoiles du triangle d'été, une des plus brillantes du ciel d'été. Deneb qui veut dire la queue, sous-entendu la queue de l'oiseau, la queue de la poule, puisqu'elle est dans le cygne. Et Deneb, il y en a plusieurs en fait. Elle, du coup, elle a gardé que ce nom parce que c'est la plus brillante de toutes les Deneb. Mais il y a aussi Denebola qui est la queue du lion. Il y a Deneb Kaitos qui veut dire la queue du monstre, la queue du poisson qui est dans la baleine, une des étoiles de la baleine, Deneb Kaitos. Et puis j'ai trouvé aussi l'autre fois un peu marrant le Aldébaran dans le taureau. Je me suis demandé d'où ça venait, qu'est-ce que ça voulait dire en arabe. Et ça veut dire celle qui suit, et sous-entendu celle qui suit les Pléiades, en fait. L'étoile qui suit les Pléiades, le suiveur, Aldébaran. Voilà, je vous parlerai de ça un autre jour. Je te rends l'antenne, Fred.
Bah super, non, c'est intéressant tout ça. C'est ouais. Ça ramène aussi au lien, aux cultures en fait, qui observent le ciel.
Mmh. Bon. Tout à fait.
Ok, alors on va terminer cette émission avec un petit point d'astro sur la matière noire. J'ai eu envie de vous parler de ça parce que cet été, en juillet, il y a une mission qui a été lancée, qui s'appelle Euclide, et qui en fait se compose de deux instruments. Un premier qui va observer dans le visible, et un autre qui est un spectroscope en fait dans le proche infrarouge. Et le but de cette mission, ça va être de cartographier en fait la structure de l'univers le plus précisément possible, et surtout le plus loin possible, donc le plus jeune possible. Là, ils vont remonter jusqu'à des zones observer des objets qui sont à 10 milliards d'années en fait de nous. Enfin, jusqu'à 10, on estime l'âge de l'univers à un peu plus de 13 milliards d'années. Donc si on imagine que si on pouvait observer en fait très très loin, ça revient à observer très très jeune en fait, puisque la lumière qui nous arrive, elle a été émise il y a si par exemple un objet est à 10 milliards d'années-lumière, la lumière qu'on observe maintenant, elle nous montre l'objet tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Donc toujours ce décalage temporel entre ce qu'on observe enfin dans ce qu'on observe en fait. Donc ça veut dire que là l'idée de cette mission, ça va être d'une part de détecter toutes les galaxies et de les positionner, d'avoir une carte en 3D en fait, la plus précise possible, la plus complète possible. Donc chose qui avait déjà été faite par le satellite Planck aussi avant. Mais là, ça va être, on est la génération d'après, voilà, donc en fait, ça va être un peu la même différence qu'entre Hubble et puis le James Webb télescope. On passe le cran au-dessus dans la précision.
Parce qu'il y avait Gaïa, mais lui, c'était que les étoiles.
C'était les étoiles.
Les étoiles de notre galaxie.
Ouais. Ouais.
Là, on parle de.
Là, on parle d'autres galaxies, on parle de structures de l'univers à grande échelle.
Les amas de galaxies.
Et voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on en a déjà parlé, ces galaxies, elles sont pas distribuées n'importe comment dans l'univers, elles forment des filaments. Et tout l'enjeu, en fait, pour les scientifiques, c'est d'arriver à comprendre comment ces structures se sont. Enfin, pour les cosmologistes, en tout cas, c'est d'arriver à comprendre comment ces structures se sont formées. Parce que, voilà. Bon, alors, je termine juste sur la description de la mission. Donc, ces deux instruments vont faire cet énorme catalogue. Et donc, j'insiste avec l'idée que si on observe loin, on observe donc dans le passé. Et donc, on va faire. Non seulement on fait une cartographie de la position de ces galaxies, mais surtout, en fait, l'idée, c'est d'arriver à étudier l'évolution dans le temps des grandes structures de l'univers. Donc, si on va loin, si on regarde loin, on regarde dans le passé, et donc on va voir comment ces structures, elles étaient il y a longtemps. Et si on observe un peu moins loin, eh ben on va voir comment elles ont évolué. En fait.
Ça nous permet de voir chaque étape.
Exactement, ça permet de voir chaque étape du processus. C'est l'idée en tout cas de la mission. Et s'ils font ça, c'est parce que en fait les modèles en fait. Et donc le modèle du Big Bang hein, aussi en réalité ne colle pas avec les observations. On a ce problème donc de matière noire. Alors je fais un peu l'historique rapide du truc. C'est un scientifique qui s'appelle Zwicky qui en 1933 le premier a parlé de matière noire. Et en fait il est arrivé à parler de ça, à inventer ce concept. Alors pourquoi noir ? Parce qu'on ne la voit pas. C'est juste ça. Hein. C'est juste parce qu'elle est invisible à nos yeux. Et en fait, il a commencé à observer la façon dont les galaxies tournent sur elles-mêmes, tournent, voilà, et aussi même à l'intérieur des galaxies, oui. Les étoiles, comment les étoiles tournent autour du centre de la galaxie. Et donc il a regardé ça et en fait, il s'est rendu compte que la façon dont elles tournaient ne correspondait pas à la masse que lui, il relevait. Vous imaginez en fait que vous observez une galaxie, voilà, vous voyez toutes ces étoiles, donc vous voyez la matière et vous comptez, vous estimez la masse de ces étoiles. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire quand même globalement. C'est pas du tout hasardeux comme comptage. Et du coup, vous avez les lois de la gravitation hein, de Newton qui s'appliquent. Et quand vous faites tourner ça, vous rendez compte qu'il manque 90% de la masse. C'est-à-dire que vous n'observez que 10% de la masse qu'il faudrait pour que, selon cette loi de la gravitation, les étoiles tournent comme elles tournent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, voilà. C'est ça l'idée. Et donc, lui, il dit, donc ça ne marche pas. Et donc, il y a de la matière noire quelque part. Mais il n'y en a pas un peu. Il y en a 10 fois plus que ce que j'observe. Donc ça, c'est voilà, 1933, c'est le point de départ de cette histoire de matière noire. Alors, bon, c'est resté un petit peu... en fait, il faut attendre quand même plutôt les années 60 pour avancer un peu sur le sujet, parce que personne n'avait vraiment de réponse. Alors, actuellement, il n'y a en réalité pas beaucoup plus de réponses. Il y a toujours le même constat que le modèle ne fonctionne pas. Et alors... non seulement il ne fonctionne pas sur ce qu'on observe là, mais il ne fonctionne pas non plus quand on fait tourner en fait, les modèles de Big Bang. On a, avec ce qu'on observe de masse, avec la loi de la gravitation qu'on a, on n'arrive pas en fait, à avoir un univers qui ressemble au nôtre. En fait. On n'arrive pas à développer ces structures-là, on n'arrive pas à faire des simulations qui fonctionnent pour expliquer la structure de l'univers à grande échelle. Donc ça leur pose quand même un gros problème. Et donc voilà pourquoi ils ont envoyé cette mission Euclide pour essayer de percer un peu ces mystères. Alors, du coup, il y a ce concept de matière noire. S'ajoute à ça maintenant le concept d'énergie noire, qui commence aussi pas mal à circuler et qui représenterait une quantité d'énergie énorme. Alors là, on ne va pas parler en masse, que, bon, masse, énergie, même s'il y a un lien avec Einstein, mais si on parle en densité d'énergie dans l'univers, il y aurait, on va dire, je crois que c'est autour de 5 ou 10% qui serait la matière.
Visible.
Ouais, la matière visible. Quand je dis visible, c'est au sens large. Hein. Ça peut être dans l'infrarouge, dans les rayons X. C'est pas uniquement dans le domaine visible. Oui. Visible au sens où on peut la détecter, quoi. Donc, quel que soit.
Oui, on dit noir, c'est parce qu'on ne peut pas la détecter.
Voilà, noir, ça veut dire on. Non, mais non seulement on peut pas la détecter, mais en plus on n'a pas d'idée de quoi elle est formée. C'est-à-dire que s'ils ont une certitude, c'est qu'elle n'est pas formée de baryon, quoi. Elle n'est pas formée en fait de protons, de neutrons, d'électrons. C'est pas ça. Ouais. Mais on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Donc alors après, là, ça rentre dans la physique des particules. Ça connecte aussi à cette partie-là où il y a tout un tas de particules complètement exotiques qui commencent à sortir du chapeau et qui sont évidemment toutes hypothétiques. Hein. Pour l'instant, on est vraiment dans le point d'interrogation. Mais il y a quand même un point qui, je crois que c'est en 2011, il y a eu la découverte en fait que effectivement, l'expansion de l'univers était accélérée. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de à Marignac, là, il y a quelqu'un dans le public qui nous avait posé cette question et à l'époque, on lui a dit mais non, on ne croit pas. Mais oui, monsieur, vous aviez raison. L'expansion de l'univers, effectivement, est accélérée. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils ont mesuré. Et là, du coup, ils disent bah, pour que ce soit accéléré, on a besoin de faire intervenir un nouveau concept, l'énergie noire, qui agirait comme une force gravitationnelle répulsive. Mais elle sort de nulle part. Enfin, c'est juste qu'il faut arriver à... En fait, tout ça, c'est toujours un peu ce problème d'arriver à contraindre les équations pour arriver à rendre compte de la réalité qu'on observe et qui reste quand même la base. Je le rappelle, c'est quand même aussi ça là, qui fait la différence entre la science et puis juste un point de vue. C'est que là, on parle d'observations concrètes, qu'on peut réitérer, qui sont claires. Quoi. On n'est pas dans « moi, je pense que ». Non, j'observe que. Après, on essaie d'expliquer. Voilà. Donc, il y a ce concept d'énergie noire qui arrive, qui représenterait 60 à 70% de la densité d'énergie dans l'univers. Donc, c'est complètement énorme. De la même façon, on nous parle de cette matière noire qui serait qui est 9 fois plus, ça serait 90% de la masse en plus. Donc voilà. Donc au final, l'univers qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'il y en a 10, je crois que c'est 0,5% l'univers. C'est parce qu'après, on ne peut pas tout observer non plus. Parce que il n'y aurait que 10% de la matière. Donc la matière normale, c'est 10%. Mais on ne peut pas tout observer non plus parce qu'il y en a qui est loin. Là, on parle aussi des limites de notre champ de vision, de ce qu'on peut observer nous. En fait, on peut réellement voir moins de 1% de l'univers. Donc, c'est... Bon, voilà. C'est un peu le concept. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ce concept de matière noire, d'énergie noire, sont hypothétiques pour l'instant. Mais il y a un modèle qui apparaît maintenant, qui est de dire, bon, ok, les lois, si je regarde la gravitation, je regarde la masse, ça ne fonctionne pas. Donc l'autre idée, c'est de dire, ben, peut-être que la loi de la gravitation, en réalité,
c'est pas ça.
Ah ouais. Et là alors moi j'aime bien cette hypothèse parce qu'elle a quand même le mérite, enfin ça me semble quand même beaucoup plus simple de dire la loi de la gravitation est à revoir.
Ouais.
Que d'inventer
de rajouter un truc
toute une histoire d'énergie noire, de matière noire. Bon, je ne sais pas. En tout cas, le questionnement scientifique, actuellement, il est sur ces voies-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle les théories MOND, c'est M-O-N-D. Donc, ça veut dire Modified Newtonian Dynamics, donc gravitation newtonienne modifiée, et qui, en fait, se comporterait comme la classique en fait à courte distance, mais qui à longue distance en fait se comporterait différemment, c'est-à-dire la loi de la gravitation, elle est en, il faut pour obtenir sa valeur la valeur de la force de gravitation entre deux corps. Le, si vous appelez la distance, en fait, vous prenez la distance entre deux corps et vous la mettez au carré, il faut diviser par ça. C'est 1 sur le carré de la distance. Donc plus, en fait, on s'éloigne, plus ça baisse vite, en fait. Enfin, ça
si on est deux fois plus loin, c'est 4 fois moins fort.
Exactement. Ouais. Et en fait, lui, il propose un modèle où, à longue distance, on n'est plus qu'en 1 sur D. Donc, on décroît en 1 sur D et donc on décroît beaucoup moins. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de beaucoup moins de matière pour expliquer les attractions gravitationnelles aux confins du disque des galaxies, par exemple. Oui, oui. Vous voyez le concept ?
D'accord. Plus tu vas loin et moins tu as besoin de matière.
Voilà. Pour résumer, pour essayer d'être un peu clair, j'observe des étoiles qui vont être en bordure de galaxies. Je vois comment elles tournent. Et ben, pour qu'elles tournent comme ça, soit il faut que j'ai 10 fois plus de masse, mais soit il faut que la loi de la gravitation elle soit en 1 sur 1 et pas en 1 sur R2. Alors, voilà.
À partir de quand à partir de quelle distance comment,
Donc tout ça, c'est à déterminer. Parce que ça fait un peu fumeux au départ, ces trucs de matière noire et tout. Bon, c'est quand même beaucoup de spéculation. Il faut être clair, on est au début du truc, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ce qu'on... On se pose la question. Ça se trouve, il n'y a pas de matière noire.
Oui, c'est du tâtonnement un peu. Quoi. C'est...
Et ça se trouve, il y en a. Et il va falloir découvrir ce que c'est. Idem pour l'énergie noire.
Oui, ce n'est pas sûr qu'il y en ait, en fait.
Non, c'est des suppositions. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle ne rend pas compte correctement des observations. Et que c'est toujours pareil, plus on va précis dans les observations, plus on vient titiller les modèles, en fait. Puisqu'il va falloir... Ouais.
Les mesures qui s'affinent.
Les mesures s'affinent viennent forcément montrer les limites des modèles ou demandent à ce qu'ils soient affinés eux-mêmes.
Oui, voilà.
Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette mission Euclide, dont j'avais envie de parler aujourd'hui.
Super, merci.
Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve tous les dimanches à 9h10 sur Air d'Ivoire.
Merci, bon dimanche.
Ouais, bon dimanche.